On écoute facile.
On écoute facile.
Una facile ascolta.
On écoute facile.
Ça ascolte, c'est au show.
Französisch leicht gemacht.
Calimera. Matheno, que milao, gallica.
Yes, I would like to speak easily in French.
Apprenez le français.
Hadit savoir bim limba francese.
Let's learn French together.
Parles-tu français?
Parles-tu français?
Parle francese.
Je veux parler facilement le français.
Quelle chance de parler facilement le français.
Französisch auf leichte Weise. On écoute facile.
Sur Canal Academy, un espace dédié à l'apprentissage du français,
on retrouve Mao et Clément.
Les Vernelles, c'est le nom d'un hameau situé sur un coteau dominant la Loire. C'est là que Maurice Genevoix, de l'Académie française, acheta une vieille maison de vigneron.
Au Vernelles, par la fenêtre de son bureau, Maurice Genevoix pouvait contempler le spectacle sans cesse renouvelé de la Loire, le plus long fleuve de France.
Dans le texte qui va vous être lu, Maurice Genevoix nous confie que la Loire est son méridien, son port d'attache, son ancre de salut. Autant d'expressions françaises que l'écrivain emploie pour nous décrire tout l'intérêt, l'engouement, la passion qu'il porte aux éléments de la nature, de la flore et de la faune.
L'auteur des livres « Bestiaire enchantée » et « Tendre bestiaire » dit que ses liens, ses attaches avec cette nature le saignent. Attention, saigne s'écrit C-E-I-N-G-N-E-N-T. Et il vient du verbe cindre qui signifie entourer, mettre autour du corps ou de la tête, et non pas du verbe saigner, S-A-I-G-N-E-R, qui lui vient du mot sang.
Les Vernelles sont devenues ma maison. J'y ai vécu de ma vie d'homme, et je sais à présent quels sont mon méridien, mon port d'attache, mon ancre de salut.
C'est là que Maurice Genevoix écrivit la plupart de ses livres. C'est là qu'il passa l'essentiel de sa vie. Au début du prochain texte, vous entendrez le mot « crissement feutré ». Il s'agit d'un grincement aigu, mais qui est assourdi et discret.
Maurice Genevoix évoque aussi les ailes d'un ramier. Le ramier est un pigeon sauvage, mais qui est aussi présent dans les villes.
Si ce n'était le crissement feutré des roues de la voiture sur le sable du chemin, le silence serait celui d'un autre monde, peuplé seulement de ululements, d'une chouette ou du claquement un peu brusque des ailes d'un ramier à la cime des pins. Et soudain, au sortir d'un tournant en angle droit, la maison apparaît, éclairée, même sous la nuit la plus noire, par le contraste entre le bois qui la met à l'abri du monde extérieur et la terrasse sablonneuse qui l'entoure. À ses pieds, en contrebas d'un talus d'herbes et d'arbustes sauvages, auxquels se mêlent des buissons de roses anciennes, la Loire, large, sereine et souveraine, coule sous les étoiles, à perte de vue.
Sylvie Genevoix, la fille unique de Maurice Genevoix, est née dans la maison des Vernelles. Elle y a passé son enfance, avec son père, sur ses bords de Loire.
Laissez-moi vous parler des arbres des bords de Loire. Les aulnes sont des arbres d'Europe que l'on trouve dans les lieux humides. Les acacias sont des arbres épineux à fleurs, généralement persistantes et blanches. L'églantier est quant à lui un rosier sauvage. Le thuya est un arbre qui produit des fruits en forme de cône et dont le feuillage est très persistant. Dans la prochaine lecture, vous entendrez aussi parler des baignoires d'un vieux sureau. Le sureau est une sorte d'arbuste.
J'ai quant à moi deux précisions à vous apporter. À la queue leu-leu est une expression française qui signifie « en file indienne ». L'un derrière l'autre, comme des loups en marche. On parle aussi d'ornière dans ce texte. Une ornière est une trace creusée dans un chemin par les roues d'un véhicule.
Avant de vous laisser le plaisir d'écouter ce texte écrit par la fille de l'académicien Sylvie Genevoix, je rajouterai que « Bestiaire »,« Jeu de glace »,« 30 000 jours » sont les titres de plusieurs livres autobiographiques que son père, Maurice Genevoix de l'Académie française, a écrit
« Aujourd'hui encore, quand on suit à la queue leu-leu le sentier qui longe la Loire, un simple passage plein d'ornières et de racines qui serpente entre aulnes, acacias, églantiers, herbes et orties, quand au fait d'une petite montée on découvre soudain les vernelles derrière sa haie de thuya, on comprend pourquoi mon père a eu vraiment l'impression qu'elle venait à sa rencontre et en quelque sorte lui faisait signe. Plusieurs fois, dans les bestiaires, dans Jeux de glace ou 30 000 jours, il a fait le portrait, comme on le ferait d'une femme ou d'un ami, de cette vieille maison telle qu'elle lui a paru, presque en ruine et déjà tellement séduisante que tout de suite il avait voulu et su qu'elle serait à lui. Avec des mots pleins d'émerveillement, il a décrit son toit de tuiles couvert de mousse, affaissé en son milieu, sa façade qui faisait du ventre au bord de l'écroulement, mais aussi les fleurs roses de l'églantier qui fleurissaient d'un côté du vieux puits, tandis que de l'autre, les baignoires d'un vieux sureau brillaient dans le soleil du matin. Et surtout, il a parlé de cette impression de bonheur intense qui émanait de ce lieu.
La fauvette babillarde. La fauvette est un petit oiseau que Maurice Genevoix qualifie de babillarde, c'est-à-dire de bavarde.
Un talus est un terrain en pente très incliné.
Les métairies sont des domaines agricoles exploités par un métayer, c'est-à-dire un agriculteur.
Un chatoiement est un reflet brillant et changeant.
Je viens d'apprendre, grâce à Maurice Genevoix, que le sainfoin est une plante à fourrage, destinée à l'alimentation du bétail, dont les fleurs sont roses. Retrouvons les textes de Maurice Genevoix, puis ceux écrits par sa fille Sylvie Genevoix.
Une fauvette babillarde, dans les acacias du talus, ivre de sa propre chanson, exultait à gorge folle. J'avais envie de chanter moi aussi, à cause de la vieille maison, des chants d'oiseaux, de la lumière et de l'espace immense. Car au pied même du talus, la Loire coulait. Le ciel et l'eau étaient du même bleu fleur de lin, un peu plus lumineux sur la Loire que dans le ciel. Sur l'autre rive, quelques métairies, un fin clocher, un autre, rappelaient la présence des hommes. Et avec eux, le chatoiement des champs, jaune des colzas, rose des sainfoins, vert soleilleux des blés grandissants, tout cela dans l'harmonie allègre d'un printemps au seuil de l'été.
Sans la Loire et sans mon père qui en a en quelque sorte fait sa muse, les Vernelles ne seraient qu'une petite maison comme beaucoup d'autres au cœur d'un modeste hameau, encore rustique, mais déjà étroitement cerné par le modernisme dans une France aux innombrables trésors. Sans la Loire, mon père aurait probablement écrit, mais n'aurait pas été ce même écrivain profond et intimement, indissociablement lié à une nature qui lui est à la fois refuge, exemple et bonheur. Il n'aurait peut-être pas été l'homme apaisé, généreux et libre qui s'est voué à un humanisme passionné et fervent. Mais qu'importe les si, puisque la réalité est là, celle de son œuvre, à l'image exacte de ce qu'il a été et qu'il suffit de retrouver.
Dans les phrases qui vont suivre, Maurice Genevoix va nous chanter son amour pour ce beau fleuve français qu'est la Loire.
Les grèves, ce sont les bords d'un cours d'eau fait de sable et de gravier. Les mouilles, dans une rivière, cela correspond à une dépression située entre les bancs d'alluvion, c'est-à-dire entre les dépôts laissés par un cours d'eau.
Les ablettes, sont des petits poissons d'eau douce dont les écailles sont argentées.
Un maillet est un marteau à deux têtes, en bois dur.
J'aime la Loire. Je l'aime pour la beauté dont elle comble mes yeux, pour les courbes molles de ses rives, pour les grèves ardentes que le soleil fait trembler, les grèves mauves à l'ombre des osiers, les grèves bleues sous le clair de lune, pour la vive fraîcheur des courants qui dansent sur les galets roux, pour le mystère glauque des mouilles et pour les ablettes d'argent qui sautent près des bateaux lavoirs. Que n'ai-je le pouvoir magnifique d'animer mes visions et rêves. Maintes fois, j'ai cru voir, à l'image d'un clair visage de femme, sourire le visage de la Loire. J'ai rêvé, dans un bloc de marbre blond, de hanches souples et de seins aux belles courbes. Alors, j'aurais voulu, empoignant le ciseau, le maillet, tailler fougueusement dans la pierre et voir devant mes yeux surgir la forme de mon rêve.
Sylvie Genevoix, dans son livre « La maison de mon père », paru aux éditions Christian Pirot, évoque un tendre souvenir d'enfance. Ses parties de pêche en complicité avec son père sur les bords de la Loire.
Harnacher signifie mettre un harnais à un animal, particulièrement à un cheval. Au sens figuré, cela signifie affubler quelqu'un d'une tenue ridicule.
Une musette en bandoulière, c'est un sac que l'on porte sur l'épaule.
Des galets sont des pierres usées et polies par l'eau. La périssoire est une embarcation légère manœuvrée par une pagaie. Une touche désigne l'action de mordre à l'hameçon pour un poisson.
Je ne pratique pas la pêche, mais en revanche, je sais que le mot « ferrer » signifie « accrocher », attraper un poisson avec un hameçon.
Et ce poisson peut être un goujon, qui est un petit poisson d'eau douce.
Et lorsque vous entendrez l'expression « inoculer un virus », vous saurez dorénavant que cela signifie au sens premier, au sens propre, inoculer, introduire dans un organisme un germe, un virus, une toxine, et au sens figuré, communiquer, transmettre quelque chose à quelqu'un. Dans le texte que vous allez écouter, Sylvie Genevoix utilise cette expression dans ce sens figuré. Comment son père avait-il réussi à lui communiquer, à lui transmettre ce virus, cette passion de la pêche ?
Un peu plus tard, quand mon père m'a senti à la hauteur, il a fait de moi sa complice de pêche en Loire, ou mieux encore, son assistante, sa petite main, préposée aux tâches les plus ingrates, ce dont je n'étais pas peu fière. Harnachée et bottée par maman, je descendais sur ses talons, cannes à l'épaule et musette en bandoulière, l'escalier de pierre très raide et un peu défoncé qui plongeait droit vers la Loire, au milieu des broussailles, à l'aplomb de la maison. Du haut du petit muret de la terrasse, maman pouvait me surveiller, me deviner en tout cas, entendre monter vers elle les échos de nos voix joyeuses. « Fais attention, Maurice, qu'elle n'attrape pas froid !» Et surtout qu'elle n'aille pas dans l'eau !» Nous l'entendions vaguement, mais nous n'écoutions pas, trop heureux et affairés que nous étions. Sous le couvert des arbres, les pieds un peu instables sur les gros galets de la grève, à moins que nous ne soyons montés dans la périssoire, amarrés à un gros aulne, nous lancions le bouchon le plus loin possible et attendions, silencieux et anxieux, d'avoir une touche. Et hop, il fallait ferrer. Ramener la ligne ni trop vite, ni trop doucement, avec, si possible, un petit goujon, une ablette argentée frétillant au bout de l'hameçon. Dans mon enfance, la Loire était encore un fleuve indompté, dangereux, parce que faussement calme et foisonnant de poissons. Comment mon père, qui avait la chasse en horreur, était-il à ce point passionné par la pêche? Et comment m'avait-il à ce point inoculé le virus? Sans doute, les animaux au sang froid, aux écailles visqueuses, privés de parole, ne sont-ils pas de notre monde et ne font-ils pas appel à notre sensibilité de mammifères terrestres? Quoi qu'il en soit, la pêche représentait pour lui, homme solitaire et libre, une sorte de recueillement, de rêverie éveillée, d'hommage rendu une fois encore à la Loire, ce miroir d'eau nonchalant, cette coulée de lumière changeante qui lui a permis d'accéder à tout jamais au sentiment de beauté. Aimer la Loire, c'était pour lui non seulement vivre à ses pieds, pour la contempler sans cesse, c'était aussi la posséder tout entière, peut-être la dominer jusqu'au moindre de ses poissons et de ses herbes folles, comme on aime passionnément une femme.
Une façon d'écouter la belle mélodie des textes de Maurice Genevoix de l'Académie française serait bien évidemment de se laisser porter par la musique des mots de la langue française qu'il sait utiliser de façon précise et experte pour décrire la faune et la flore, mais aussi de façon tellement poétique.
Dans ce passage, j'ai par exemple trois mots au sujet desquels il serait bon de donner quelques explications. Peut-être sentirons-nous jusque dans nos fibres, écrit Maurice Genevoix. Il s'agit là de l'expression « jusque dans nos fibres », les fibres étant des éléments primordiaux, essentiels, qui constituent certaines substances, dont le corps humain. Cette expression « sentir jusque dans nos fibres » signifie que l'on va ressentir quelque chose, une émotion, une sensation au plus profond de soi.
Clément, si je vous parle des spires de remous, vous me comprendrez ?
Je vous demanderai une explication, s'il vous plaît, Mao.
L'eau d'un fleuve comme la Loire bouge, tourbillonne, est en mouvement perpétuel. Elle crée des remous qui tournent sur eux-mêmes, faisant des spires, c'est-à-dire qu'ils effectuent le tour complet d'une spirale.
À moi de vous surprendre maintenant, Mao. Connaissez-vous le mot surgeon ? Non ? Ah, eh bien ce sont de jeunes pousses que l'on peut trouver au pied d'un arbre, tout comme dans notre texte, dans les profondeurs d'un fleuve comme la Loire.
Moi, je sais que les nasses d'osier sont des sortes de grands paniers que les pêcheurs déposent à certaines profondeurs du fleuve pour prendre, attraper du poisson.
Ces pêcheurs attrapent aussi leurs poissons avec des filets. Pour ensuite attraper les poissons prisonniers des filets, ils halent, c'est-à-dire ils tirent vers eux leurs filets sur le sable.
Peut-être, enfin, comme les patients pêcheurs, au long de leur veille nocturne, solitaire, méditative, sentirons-nous jusque dans nos fibres le mystère du monde fluvial, les spires des remous au soleil, leur tiède poussée, la montée des surgeons glacés venus des lointaines profondeurs, des rivières inconnues roulant et bruissant dans des ténèbres éternelles. Et puissions-nous, comme eux encore lorsqu'ils lèvent leurs nasses d'osier, lorsque, ayant halé sur le sable les mailles de leur grand filet, ils en poignent à pleine main et jettent dans les mannes béantes de beaux poissons fleuris de nageoires rouges. Puissions-nous ravir à la Loire de beaux secrets étincelants.
Les martinets sont des oiseaux qui ressemblent aux hirondelles.
Savez-vous ce que je viens de faire ?
Il est vrai que je vous trouve assez étrange depuis ce matin.
Eh bien, je froue, du verbe frouer, qui signifie émettre un certain sifflement par lequel on imite le cri de la chouette pour attirer des oiseaux.
Je ne vois encore aucun oiseau dans notre studio.
J'emplissais mes regards de bouquets d'arbres, d'eau calme et d'eau glissante, de toits serrés et fraternels, d'horizons bleus, d'un ciel immense où commençaient à tourner, frouant, virant, les vols des martinets du soir. entre eux et moi, personne. Personne que ma propre enfance et la pensée poignante de ma jeune mère disparue, de ce qui passe et meurt au sein des apparences et de leur trompeuse durée.
Le roman Rabolio de Maurice Genevoix connut un immense succès.
Rabolio obtient le prix Goncourt en 1925. Rabolio est un roman culte, véritable hommage à la Sologne. Rémy Desroches l'avait été pour la Loire.
Nous vous invitons à retrouver Maurice Genevoix dans d'autres émissions sur Canal Académie. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt pour un prochain En écoute facile.